Merci beaucoup, Laurence Ranois, pour cet exposé, ces réflexions sur l'archéologie et son futur et sur les liens du coup entre archéologie et les sociétés. On peut peut-être maintenant passer aux questions avec la salle, si jamais il y en a. Une tout au fond, oui.
Oui, merci pour votre question, qui inclut la réponse finalement. J'ai pas de besoin de répondre puisque vous nous donnez la réponse. Oui. Alors évidemment, on peut déplorer que l'archéologie ne soit pas assez impliquée dans toutes ces chaînes de réflexion qui aujourd'hui se développent autour de l'environnement. Mais moi, je suis assez optimiste et je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait de l'épaisseur du temps et de l'impossibilité de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans en référer à des enchaînements qui existent depuis que Homo sapiens s'est répandu sur cette pauvre petite planète. Et bien entendu, on ne peut que souhaiter que très rapidement, la communauté archéologique qui travaille sur l'environnement, mais pas seulement, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas paléo-environnementaliste, c'est pas parce qu'on n'est pas paléo-environnementaliste qu'on n'a pas son mot à dire sur ces questions quand on est archéologue, au contraire. On nous a obligés dans les années 80-90 à ne pas sortir de la problématique homme-nature. Alors maintenant, on ne dit plus homme, hein, on dit humanité. Humanité-environnement, c'était une figure obligée. Et la figure obligée, elle s'intègre dans le débat public et j'espère que ça se fera de plus en plus pour justement avoir une analyse fine de ce qui se passe aujourd'hui.
Stéphanie, à prendre en compte effectivement les problématiques locales. À votre avis, comment peut-on faire effectivement pour équilibrer ça et...
Alors, sur la question du CST, des contrôles scientifiques et techniques, je pense que le CST donc, se déploie dans plusieurs champs. Il y en a un, à mon avis, qui est au cœur de la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est la question des communs, c'est celui de la détermination de ce qui doit être conservé, de ce qu'on doit détruire. Puisque c'est le visa du directeur des archives départementales, en l'occurrence, ou des archivistes ministériels au niveau central de l'État, qui signe l'arrêt de mort d'un document. Hein, donc le sujet, il est là. Le sujet, c'est... Comment, pour moi, le rapport entre le CST et les communs, c'est ça. C'est, on a des instructions, parfois, qui ne couvrent pas tous les champs de la production archivistique, même quand elles la couvrent, est-ce qu'elles ne doivent pas être réinterrogées, ces tableaux de gestion, ces instructions. C'est vraiment s'interroger sur l'utilité sociale, et donc voir de quelle manière, dans quel cas, on peut prendre seul la décision, en tant qu'ayant autorité, confié par la loi, et dans quel cas il est opportun de s'associer d'autres acteurs qui vont apporter un autre éclairage, qui vont nous aider à prendre la décision de la conservation ou de la destruction. Je pense vraiment, voilà, la question du CST, pour moi, ramenée au débat qui nous anime aujourd'hui, hein, c'est ce sujet-là. Et c'est un sujet qui est à peine ébauché, puisque j'ai donné l'exemple des bulletins IVG. Mais dans tous les cas de figure, on détruit sans demander l'avis de qui que ce soit, sinon du service producteur, mais qui lui doit simplement nous dire si le document a encore une utilité administrative pour lui. Et donc c'est l'archiviste qui va déterminer s'il y a un intérêt historique ou pas. Donc est-ce que l'archiviste seul peut aujourd'hui agir ainsi pour un nombre très important de typologies? Le débat est ouvert.
Bonjour, Olivier Brun, élève conservateur en archéologie. Je voulais revenir, merci pour ces deux belles communications et ces premières réponses. Dans les exemples que vous avez donnés sur ces développements nouveaux de l'archéologie, alors l'archéologie n'a cessé de conquérir des champs de recherche nouveaux, de plus en plus en contact avec d'autres collègues, mais justement dans la définition même de ces sujets, puis dans leur transmission, est-ce qu'il n'y a pas là un sujet à interroger pour les communs? Puisque souvent, dans les exemples que vous avez pris, par exemple de l'archéologie contemporaine telle qu'elle se pratique aujourd'hui, on voit qu'on la définit comme archéologie contemporaine, mais en fait, techniquement, on a principalement une archéologie de la production et une archéologie du fait violent ou guerrier. Et finalement, on a très peu... et ces choses-là sont venues par irrigation de la communauté archéologique à qui on donne voix à décider par certains de ses membres qui, intéressés par un sujet, sont sortis de l'âge du bronze pour aller vers l'archéologie contemporaine. Presque tous viennent de l'âge du bronze, ça c'est un autre sujet, c'est rigolo. Mais se sont battus parfois contre leur administration, contre leur employeur, mais sur des sujets qui les intéressent. Et aujourd'hui, finalement, comment comparer toutes les données qu'on a sur, par exemple, le fait anthropologique en temps de guerre à des données contemporaines non militaires? Je me suis bataillé juste avant l'obtention de ce concours, je pense avoir réussi, pour que l'État prescrive au moins un diagnostic archéologique préalablement à la destruction par une route du cimetière d'un hôpital psychiatrique. 1840, 1974, on a les archives n'ont pas été triées parce que justement repérées par nos collègues comme particulièrement intéressantes, etc. On est pile poil, voilà. Eh bien non. Non seulement l'administration au-dessus, mais un certain nombre de collègues n'y voyaient pas. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas là une forme de reproduction de ce que la société invisibilise? Ce sont des soldats qui ne sont pas morts comme héros au combat, qui ont fini en hôpital psychiatrique. Ce sont des infirmières, puisqu'il y avait des soignants et des soignés. Donc, est-ce qu'elles auraient moins d'intérêt scientifique? Est-ce qu'elles nous éclaireraient moins que des hommes morts l'arme à la main? En tout cas, ça a été un des arguments que j'ai dû utiliser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le choix de ce qu'on va ouvrir comme champ nouveau se fait à travers l'institution, et finalement, presque de plus en plus dans la manière dont on va ensuite le retransmettre à la communauté, puisque l'exemple des journées européennes de l'archéologie, très grand succès partout sur le territoire, et pas qu'en France maintenant, mais si vous aviez déroulé la vidéo, on aurait vu beaucoup de visages d'associatifs, de collègues de l'État, de collègues territoriaux, mais un seul logo sur les vestes, celui de l'Institut national financé pour mettre en œuvre cette manifestation nationale. Donc est-ce qu'on n'est pas là à l'opposition de cette notion des communs, où l'institution reprend la main?
J'ai du mal à répondre à votre question.
Moi, je pense que le problème de l'intérêt des choix politiques qui sont appliqués aux interventions archéologiques aujourd'hui, ça relève des prescriptions scientifiques. Le prescripteur, c'est l'État. Donc, en effet, la modification des prescriptions, elle peut se faire dans un contexte social qui va pousser à prescrire là où on ne le ferait pas avant. C'est vrai que la fouille des carrières de camp, ça ne se serait peut-être pas fait il y a quelques années. Et vous parlez d'une archéologie qui prescrit sur des faits de violence et non pas sur d'autres faits parce que considérés comme moins nobles. Moi, je pense que la prescription archéologique, elle bat au rythme des temps de la société et que, bien entendu, que les pressions sociales, les pressions des intérêts de la communauté peuvent influer sur la manière dont on prescrit. Et on l'a bien vu, d'ailleurs, hein, puisque ce qui était interdit il y a 10 ans, quand je parlais du déjeuner sous l'herbe, ne le serait pas aujourd'hui. Au contraire, aujourd'hui, certainement, on frapperait des deux mains pour autoriser ce type d'opération archéologique. Donc, tout ça fait partie de des cadences que la société permet d'imposer, pas d'imposer, mais des cadences qui encouragent de nouvelles types de prescriptions. Après, en ce qui concerne l'opérateur dont vous parlez, qui est le seul dont le logo apparaît sur les images, là, je trouve votre attaque un peu sévère, et je ne la partage pas, parce que dans la mesure où c'est un chantier qui est organisé par cet organisme de l'État, je ne vois pas pourquoi il se priverait de se nommer. Enfin, je n'ai pas bien compris votre inquiétude à ce sujet.
Les journées européennes de l'archéologie sont des grands événements nationaux, oui, donc ils sont confiés à un opérateur, il n'y a pas de souci, il est financé pour ça, et il regroupe des propositions, il en fait lui-même en tant qu'acteur local, très bien, mais il regroupe aussi des propositions faites par des musées, des associations, oui, des sites, etc., qui ne sont jamais visibles, par exemple, dans la vidéo de présentation.
Mais écoutez, j'en suis désolée, j'aurais dû mettre d'autres types de diapositives et ne pas toujours faire référence au même opérateur, mais bon, je comprends votre regret.
Merci. Oh, pardon. Ah, pardon. On en a une aussi au premier rang. Après.
J'avais une question donc pour revenir sur les archives. Vous nous disiez que les archives étaient en fait des sources de communautés. Mais dans le cas des archives nationales, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont les sources d'une communauté, d'une culture qui est avant tout nationale, comme l'indique le nom des archives nationales, qui peut-être à questionner dans un nouveau contexte où les cultures communautaires prennent de l'importance. Et est-ce que ce serait donc pas plutôt le rôle de centres d'archives locaux, publics ou non, de conserver la mémoire de communautés, on va dire, qui n'ont pas de volonté justement nationale dans cette culture jacobine qui a pu nous être présentée par Marc Drouet. Et à ce propos, je me permets de rectifier son propos, parce qu'à la ZAC Notre-Dame-des-Landes, les archives départementales de Loire-Atlantique ont mené une collecte des archives des zadistes.
Alors sur ce sujet, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une partition des rôles entre les archives nationales et le réseau territorial des services d'archives. Aux archives nationales, nous avons collecté des fonds portés par des associations qui avaient une vocation nationale, comme ACT UP ou AIDE. Mais lorsqu'il y a des associations régionales, départementales, locales, leurs fonds d'archives, leurs documentations ont toute leur place dans les structures locales. Donc bien évidemment, mais le centre des mémoires LGBT tel qu'il a été imaginé à un temps à Paris était aussi un centre fédérateur et qui avait comme objectif de diriger les détenteurs de documents vers l'institution la plus à même de les conserver. Et donc évidemment, il faut qu'il y ait cohérence entre le contenu des documents et le territoire dans lequel ils sont conservés. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous n'avons pas vocation d'archives nationales à conserver tous les fonds d'archives LGBT de France. Nous en avons quelques-uns, nous en aurons peut-être d'autres, mais d'autres institutions sont très très légitimes effectivement à accueillir des fonds qui ont une vocation territoriale correspondant à leur champ de compétences.
Et oui, une toute dernière question, tout devant.
C'est plutôt une remarque. Il n'y a pas longtemps, j'ai rédigé la contribution à un colloque que nous avons tenu à Berlin-Weimar dans le cadre de l'école de doctorants Identité et Patrimoine, et c'était sur la censure. Et on avait un intervenant de la Géorgie qui nous parlait des archives en Géorgie. Et c'est en principe le contre-portrait de ce que vous avez dit sur l'histoire des archives en France. J'admire encore la beauté des paroles de ce Parlement révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. C'est aussi beau que les paroles aussi d'Abbé Grégoire que vous avez certainement tous étudiées. Alors pour cette situation en Géorgie, on peut très bien comprendre comment un archive est un outil de pouvoir et aussi d'empêchement de savoir. Parce que dans les archives de la Géorgie, c'est une histoire complexe, comment c'est devenu un État indépendant. À la crise actuelle, on peut bien voir que l'indépendance d'une province de l'Empire soviétique n'était pas vraiment le départ dans la liberté. Et qui veut faire des recherches dans un archive en Géorgie, à Tbilissi, doit pas payer grand-chose, ou même pas du tout. Mais pour une photocopie d'une feuille, on paye le pareil d'un euro. Et les salaires sont très bas. L'archive... Et moi, je trouve que c'est une paradoxie, en quelque sorte. Et je voudrais bien savoir votre avis là-dessus. On préserve quand même. Hein, c'est pas détruit. On pourrait détruire les traces des actions de meurtre dans les années 50, tout ce qu'on appelle la Säuberung, je ne sais pas traduire ça en français, cleansing of population, donc l'approche stalinienne ou staliniste. Ces archives existent, mais on donne pas accès. Ou alors on donne accès, mais on fait payer. C'est-à-dire, c'est comme un recul à plusieurs, niveaux, mais on n'ose pas brûler les archives. Ça, c'est. Je trouve que dans les archives et dans le concept de l'archive, il y a un côté totalement, imaginaire et mystique, comme si on devrait s'attendre à une punition céleste si on détruit les archives. Qu'en pensez-vous?
Alors, on doit détruire des archives parce que on conserve déjà, rien qu'aux archives nationales, 373 kilomètres d'archives. On reçoit chaque année entre 3 et 5 kilomètres d'archives publiques nouvelles. Et dans l'ensemble du réseau des archives publiques françaises, on est à plusieurs milliers de kilomètres. Or, on estime qu'il y a à peu près 80 à 90%, alors on dit 90% de la production qui est détruite parce que considéré comme ne présentant pas un intérêt historique. Donc on doit détruire, c'est-à-dire qu'on ne serait pas en capacité, d'un point de vue, on n'aurait pas la capacité, ne serait-ce qu'en ressources humaines, financières, de tout conserver. Et donc on fait une sélection. Comment on fait une sélection pour un musée? Le musée, il a fait l'acquisition d'œuvres, de quelques œuvres dans l'année. C'est la même chose pour les services d'archives. Je reviens sur cette notion de pouvoir. Oui, les archives, ça peut être un enjeu de pouvoir très fort. Y compris en France, y compris dans des pays occidentaux. On l'a vu notamment dans les grands débats qu'il y a eu ces dernières années sur les archives classifiées, les archives couvertes par le secret de la défense nationale, avec un recours devant au Conseil d'État de la part d'un collectif d'archivistes et d'historiens qui a eu gain de cause. Et du coup, la loi a été modifiée et il y a désormais des classifications automatiques, sauf exception, à l'expiration du délai prévu par le Code du patrimoine, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on voit que même dans nos pays, il peut y avoir des sujets et des débats de société sur la transparence, que tout n'est pas acquis, ça c'est sûr, ça l'est plus ou moins. La situation en France, en Europe en général, est plutôt bonne, plutôt très bonne, mais c'est un véritable enjeu de pouvoir, avec des décisions qui vont être très différentes d'un État à l'autre, avec des histoires qui sont très différentes. Par exemple, en Europe de l'Est, lors de l'effondrement du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, les archives des polices secrètes ont été ouvertes. C'est le cas de la Stasi en Allemagne de l'Est, donc en Allemagne, également de la police secrète de Roumanie, où tout a été ouvert à tout le monde.
D'un seul coup, alors désormais ils ont fait du rétropédalage, et désormais aux archives fédérales allemandes, il y a une étude précise, avec souvent du caviardage des documents pour ne pas mettre en cause d'autres personnes, mais on voit que l'archive peut être est utilisé à des fins politiques, bien évidemment. Dans d'autres cas, notamment actuellement le conflit en Ukraine, me fait penser à celui de l'ex-Yougoslavie, où dans certains territoires, les militaires ont détruit sciemment l'état civil et le cadastre, parce que ça supprimait l'identité des personnes qui habitaient là et leur capacité juridique à détenir des biens. Donc on voit que les archives, c'est quelque chose qui est loin d'être anodin, qui non seulement a une vocation historique, évidemment, mais qui a d'abord une utilité sociale, administrative, juridique pour les individus. Et donc de ce fait-là, ça peut être utilisé dans des directions qui peuvent être très différentes, voire antagonistes.
Pour terminer... J'aurais juste une petite remarque, je rebondis sur Olivier, c'est pas une question, on va vite aller manger après, il n'y a pas de souci. Juste pour revenir sur cette question des prescriptions, elles se basent forcément sur la programmation nationale de l'archéologie et les axes qui sont déterminés par elles. Et avec mon collègue Julien, nous avons eu la chance cette année de pouvoir assister au débat de la nouvelle programmation de la recherche archéologique, et toutes les questions qui ont été abordées par Laurence Ranois ont été abordées. Les débats sont houleux, mouvementés, mais tout ça pour dire que voilà, tous ces questionnements sur qu'est-ce qu'on prescrit, qu'est-ce qu'on ne prescrit pas, sont au cœur des débats aujourd'hui. Voilà. Bon appétit à tous et on se retrouve à 14h30.